Professeur Harley, bonjour.
Bonjour.
Professeur Harley, aujourd'hui nous allons parler de la maladie dite rendue Osler-Weber.
Voilà, nous allons parler de la maladie rendue Osler qui est appelée aussi télangiectasie, hémorragie par héréditaire. C'est une maladie génétique, on va voir, c'est une maladie familiale, héréditaire. Pourquoi les internistes peuvent s'intéresser à pareille maladie? Bien, on va donner quelques raisons à cela. En effet, c'est une maladie dont la fréquence est diversement appréciée, et d'ailleurs en cours d'appréciation par une enquête nationale qui est réalisée à l'heure actuelle. Et c'est une maladie qui intéresse donc un certain nombre de gens et qui occasionne des saignements répétés, extrêmement gênants dans le quotidien, mais également des symptômes qui quelquefois vont très au-delà de ces simples saignements et peuvent être générateurs d'anomalies hépatiques, cardiaques, cérébrales, éventuellement très sévères. Alors, c'est une maladie génétiquement déterminée, autosomique, dominante, c'est-à-dire que lorsqu'on établit un arbre généalogique d'une maladie de rendue Osler en face de quelqu'un qui est porteur de cette anomalie, il est habituel de retrouver un arbre généalogique très chargé avec des antécédents, avec la moitié de la famille qui est touchée. C'est une maladie qui, curieusement, est plus fréquente dans certaines régions que d'autres, et la maladie de rendue Osler a tout d'abord été connue au niveau des hôpitaux lyonnais, et l'épidémiologie de la maladie de rendue Osler en France a démarré avec une équipe de généticiens et d'épidémiologistes autour du professeur Plochu, qui est le responsable du centre de référence de la prise en charge de la maladie de rendue Osler. Voilà ce qu'on peut dire de cette maladie de rendue Osler qui détermine l'apparition de petites anomalies très simples qu'on appelle des télangiectasies, c'est-à-dire des petits anévrismes artério-veineux sous-cutanés qui se voient très bien sous la forme de petites taches qui peuvent régresser si l'on appuie dessus, si l'on exerce une traction, ce n'est pas du purpura. Et ces mêmes télangiectasies sont généralement très visibles et fréquentes et nombreuses également au niveau des muqueuses. De la muqueuse nasale, souvent c'est plutôt l'ORL qui le regardera à l'occasion d'une épistaxis ou dans le contexte d'épistaxis récidivante, mais c'est également souvent très présent au niveau de la muqueuse buccale, tant sur la langue que sur les gencives ou sur la muqueuse du palais. Il faut savoir que ces télangiectasies, si elles existent au niveau de la peau et des muqueuses, elles peuvent exister également le long du tract digestif, pouvant occasionner également des hémorragies digestives itérative, quelquefois distillante, et c'est une anémie ferriprive qui sera l'objet de la découverte de cette maladie de rendue Osler. Quelquefois, c'est dans différents organes, en particulier dans le foie, où ces fistules artério-veineuses peuvent grossir parfois, entraîner de véritables shunts qui vont entraîner des anomalies cardiaques par exemple, une insuffisance cardiaque droite par hyperdébit. Ces mêmes shunts peuvent exister au niveau pulmonaire, entraîner une insuffisance respiratoire chronique, entraîner également l'apparition d'hémoptysie, entraîner une insuffisance cardiaque, et encore une fois, au niveau du cerveau également. Et on sait que dans certaines familles ayant des maladies de rendue Osler, on peut retrouver à l'anamnèse des gens qui sont décédés d'une hémorragie méningée ou d'une hémorragie intracérébrale. Et voilà les éléments qui rendent cette maladie de rendue Osler une maladie systémique, qui font que cette maladie systémique nécessite une prise en charge généralement pluridisciplinaire. Et on a bien compris que j'ai cité bien sûr les généticiens, bien sûr les internistes, habituellement également le gastro-entérologue et le spécialiste ORL, mais également quelquefois le cardiologue, l'hépatologue, le neurologue, et bien entendu les imageurs, et je parlais des radiologues interventionnels, car grâce à eux, on est capable bien souvent de fermer une fistule, de l'obturer, de l'oblitérer, et cela rend des services incommensurables dans la prise en charge thérapeutique de la maladie de rendue Osler.
Professeur Harley, au niveau du diagnostic, est-ce qu'il y a quelque chose d'incontournable qui pose ce diagnostic de maladie de rendue Osler?
Alors, comme il s'agit d'une maladie héréditaire, c'est vrai que le poids héréditaire a une importance considérable dans le diagnostic. Alors, c'est une maladie à critères et les critères retenus sont ce qu'on appelle les critères de Curaçao. Ne pensez pas que c'est les apéritifs qui nous permettent de faire ce diagnostic, mais plutôt une réunion internationale qui a eu lieu dans cette jolie ville de Curaçao qui ont permis de déterminer que l'existence d'hémorragie nasale répétée, que le contexte familial, que la dissémination des télangiectasies non seulement au niveau du visage, mais au niveau des extrémités, sont des éléments à prendre en compte pour le diagnostic. À l'heure actuelle, de façon de plus en plus fréquente, on recourt à un diagnostic génétique. En effet, donc à l'heure actuelle, 85% des cas, il existe une mutation. Et il existe en fait deux mutations possibles pour cette même maladie de Rendu-Hausler. Une mutation qu'on appelle la mutation sur le gène de l'angladine et une autre qui peut exister, qui est une mutation qu'on appelle ALK1, ALKA numéro 1. L'une ou l'autre de ces mutations est caractéristique de la maladie de Rendu-Hausler et permet donc de repérer le type de maladie de Rendu-Hausler, sachant que pour l'instant, il n'y a pas de différence entre l'une ou l'autre de ces mutations, et de repérer également, lorsqu'il n'existe pas de symptômes suffisants, si oui ou non les gens sont porteurs et éventuellement, bien sûr, transmetteurs de cette anomalie génétique. Enfin, à peu près 15% des gens ayant une maladie de Rendu-Hausler ne sont porteurs d'aucune de ces deux mutations et manifestement on est à la recherche d'autres gènes qui seraient engagés dans ce diagnostic.
Professeur, y a-t-il des bassins de population plus exposés ?
Alors, les bassins de population, je parlais du professeur Plochu, car en effet, il existe une fréquence très exagérée de cette maladie de Rendu-Hausler dans certaines vallées de la Savoie, et en particulier, ou du Jura, et en particulier la vallée de la Valserine, où on s'est rendu compte que cette maladie avait une fréquence très très importante. Alors, il existe très certainement dans cette région un ancêtre commun qui a été celui par lequel cette maladie a diffusé ensuite. On raconte même qu'une invasion prussienne a été l'origine de l'apparition de cette maladie dans cette vallée. Mais là, j'ai pas de choses beaucoup plus précises à vous raconter. En fait, donc, une fois qu'on a posé la question aux gens de savoir s'ils étaient originaires de cette région très particulière, il faut certainement pas s'arrêter à ça. Et en fait, il existe une diffusion de cette maladie à travers le monde. Et l'existence de différents symptômes doit nous faire envisager ce diagnostic et tenter de le faire confirmer par un test génétique si les gens sont d'accord.
Professeur Orlé, au niveau du protocole thérapeutique qui est appliqué à cette maladie ?
Alors, il n'existe pas un protocole thérapeutique. En effet, lorsqu'on rencontre des patients ayant cette maladie, ils ont des demandes très variables. Pour certains d'entre eux, c'est simplement une épistaxis qui va survenir une fois par mois. Et de ce point de vue, ils veulent simplement avoir un tamponnement ou un méchage efficace lorsque ce saignement survient. Il faut bien avouer que ce ne sera pas nécessaire de faire beaucoup de choses. Il en va tout différemment de certaines personnes. Et malheureusement, pour certains de ces malades ayant des complications sévères, c'est à l'hôpital que ça se passe. Un patient que j'ai suivi longuement a malheureusement dû être hospitalisé pendant plus d'une année pour des transfusions itératives, multiples, quasi quotidiennes, du fait des épistaxis et des hémorragies digestives qu'il présentait sans que nous ayons le moindre possibilité d'interrompre ces hémorragies. C'est tout à fait exceptionnel, mais cela donne une idée de la variabilité dans la gravité de cette maladie. Certaines maladies, par exemple, vont s'accompagner, lorsqu'il existe une atteinte hépatique, de progressive insuffisance hépatocellulaire. Et il existe un certain nombre de ces patients ayant une maladie de Rendu-Hausler qui ont dû recourir à une greffe hépatique pour leur survie et qui vont bien après avoir été greffés. Il en existe d'autres pour lesquels, effectivement, les atteintes pulmonaires deviennent de plus en plus sévères. Et j'ai dit tout à l'heure que les radiologues interventionnels sont très utiles et nécessaires pour tenter de boucher, d'obturer avec des coils, avec des ressorts, ces fistules artério-veineuses lorsqu'elles sont de trop gros calibre. Mais cela n'est pas toujours possible, malheureusement. Et quelquefois, ce ne sont que des transfusions itératives qui vont permettre de gérer les saignements. Alors, bien souvent, les spécialistes ORL sont sollicités par les patients ayant des épistaxis multiples. En effet, outre des méchages ou des tamponnements, il leur est fréquemment demandé d'effectuer des électrocoagulations. L'utilisation de laser argon est aussi recommandée dans certaines hémorragies ORL, nasales, ou quelquefois les hémorragies digestives, en particulier gastriques ou duodénales. De telles interventions sont d'un grand secours pour interrompre les saignements. Ce sont souvent des malades qui ont des anémies ferriprives chroniques. Il ne faut pas oublier de leur donner du fer de façon quasi constante, de façon que leur chiffre d'hémoglobine soit plutôt proche de la normale que constamment abaissé. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, il naît des espoirs de l'utilisation de certaines thérapeutiques exceptionnelles actuelles. Depuis un an, à propos d'une observation bien documentée, on a envisagé la possibilité d'utiliser une chimiothérapie qui jusqu'alors est utilisée contre certains cancers, qu'on appelle les anti-VEGF. Et il y a un protocole national initié par l'équipe lyonnaise qui est actuellement en cours dans le cas de maladie Randi-Hausler d'une particulière gravité.
Professeur Harley, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu à côté du sujet. Est-ce qu'il y a peut-être une thérapie génique qui serait applicable ou est-ce que c'est hors sujet ?
Hors sujet, non, mais vous avez compris qu'on parle non pas d'une mutation mais de plusieurs. Qu'à l'heure actuelle, les balbutiements en thérapie génique ne nous permettent pas d'envisager dans un délai court l'utilisation de telles médications, comme sans doute certaines autres maladies pourront l'être, comme certains déficits congénitaux immunologiques.
Professeur, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.